Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blanc au micro, Maurice Bolduc à la console. Aujourd'hui c'est jeudi, donc en première partie d'émission, nous allons avoir Myriam Larage qui va nous donner les dernières nouvelles sportives. Et en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir un vétéran qui va nous parler un peu de son expérience militaire dans l'armée. Et aujourd'hui, vous savez, c'est la journée le jour du souvenir, hein, c'est très important. Voilà, une date aussi pour tout le monde, c'est pas seulement ici au Canada, mais un peu partout, les gens qui ont participé à la Première Guerre mondiale, bien sûr. On va tout de suite, je ne sais pas si j'ai fait un petit clin d'œil à Maurice, oui, ouais. On va tout de suite en musique avec Mocha, Marie-Anne Tessier et Jeanne Gagné, Flamme.
Ils veulent te changer. Ils t'ont dit tu peux pas tout faire. Quand tout est repart, part en fumée. Dis-toi qu'il y a rien d'autre à faire. Il faut recommencer l'ego à zéro. Y a un bloc qui manque mais tu sais plus trop. Ton visage dans la glace, ton sang se fiche. Pourquoi être femme te donne le vertige, oh.
Yann Tessier, Jean Gagné, Flamme, c'est un duo, Mocha. Voilà, Myriam Larache est déjà au bout du fil, elle va nous donner les dernières nouvelles sportives. J'ai bien hâte d'entendre ce qu'elle va nous sortir. Bonjour Myriam.
Bon après-midi Fulgence et à tous nos auditeurs, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci. Et toi?
Il commence à faire nuit à 5h. Hein.
Et il fait froid aussi.
Il fait froid et il fait... Ça y est, on est rentré dans notre phase d'hibernation jusqu'au d'avril.
C'est ça.
Alors, c'est sûr qu'on va parler de sport d'hiver, donc du hockey, le sport national.
Oui.
on n'a pas le choix, Fulgence, parce que bon, les matchs se suivent et se ressemblent, on va dire. Hein. Hélas, c'est triste.
C'est vraiment triste.
Hein. Ouais. Alors, les défaites continuent de s'aligner pour le Canadien de Montréal. Oui. 3 de suite. En conférence de presse, les joueurs qui s'expriment toujours, et souvent les mêmes, hein, avec une mine déconfite, ils disent, selon Jack Evans, c'est très frustrant, on travaille tellement fort à l'entraînement et dans les matchs. On est une équipe soudée, on doit se retrouver. Je crois que ça va arriver, on peut juste s'améliorer à ce point-là. Alors c'est sûr,
oui,
ça
mais ce sont pas les pires, hein, on va dire. Mais Myriam, c'est pas des débutants quand même. Il faut marquer maintenant, il faut gagner les matchs maintenant.
C'est vrai, on ne sait pas ce qui se passe. Alors il y a Ben Kerriott, lui, qui est toujours le bavard de service, ou qui représente en tout cas les communications.
Oui.
Il dit, on a encore eu un relâchement en deuxième période, c'est quelque chose qu'on doit corriger, car ça se répète souvent, je ne sais pas pourquoi on se retrouve sur les talons à la mi-match. Alors voilà, le Canadien ce soir qui affronte les Flames de Calgary.
Tout va se passer ici au Centre Bell.
Oui, à 19h. Alors, okay. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. On peut que dire que, bon, bah, s'ils gagnent, yeah! Mais est-ce que ça va durer?
Pour un match à domicile quand même, je me dis, mais ils doivent gagner au moins tous les matchs à domicile, non?
Même pas.
Oh voilà, là, c'est vraiment... Je sais pas. Mais, oui?
Si cette semaine, il y a eu une grosse sortie de ton favori, les aveux de Carey Price, n'est-ce pas? Parce qu'il est parti un mois en demandant de l'aide à la LNH. On n'a pas su vraiment pourquoi. Maintenant, il est venu, il a admis, il a joué la transparence, c'est bien. Alors, la vedette du tricolore, Carey Price, a fait des aveux publiquement ce mardi. Il a avancé les raisons de son absence et la demande d'aide qu'il a fait en début de saison.
Oui.
Il a un problème de consommation de substances. Alors, le gardien du Canadien a admis que ces dernières années, il s'est laissé sombrer, selon ses termes, hein. Je répète exactement ce qu'il dit. Il s'est laissé sombrer dans un état de noirceur dont il est devenu impossible de sortir sans une aide. Ce sont donc ses propres termes.
Il faut avoir le courage pour le dire. Il n'est pas le seul. Il y a plein qui sont dans ces situations qui n'arrivent même pas à ouvrir le broche de Beaumier.
La nouvelle a surpris tout le monde. Son entraîneur, parce que tu sais qu'il y a un entraîneur spécialiste des gardiens de but. Hein.
Oui.
Il y a un entraîneur pour les gardiens de but. Son entraîneur qui dit, quelques jours auparavant, avant son sortie, il avait dit aux médias, à la radio, je l'ai entendu, ce n'est ni un problème de drogue ni d'alcool. Mais alors, on se pose la question, que sont ces substances, hein? On ne sait pas. Alors, voilà. Un de ses coéquipiers, encore une fois, Ben Kerriott, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, qui a déclaré, c'est un brave homme de braver ainsi la tempête. Ce n'est pas facile, mais il le fait la tête haute. Je suis fier de le compter parmi mes amis. Alors, il a le soutien de ses collègues et de ses coéquipiers, c'est bien. Une chose qu'il faut apprendre de tout ça, Fulgence, parce qu'il a demandé de l'aide. Je vais essayer de vous demander qu'est-ce que c'est que ce programme d'aide dans la LNH.
Oui.
Le nom officiel de ce programme, c'est The Substance Abuse and Behavioral Health Program.
Ça dit tout.
Voilà. Comme son nom l'indique, il s'applique tant aux problèmes de consommation qu'à une panoplie d'enjeux de santé mentale ou de dépendance, c'est-à-dire même les jeux vidéo ou les jeux de hasard.
Ça dit tout. Tout est inclus. Ouais. Les accros, iPad, iPod, cellulaire, voilà, tout est là-dedans.
Donc, ils ont droit à cette aide. Il s'agit au fait de l'équivalent d'un programme d'aide aux employés qu'il y a, le PAE, qui est offert dans de nombreuses entreprises et en milieu de travail. Okay? Alors, le programme est confidentiel, il est assuré par une ligne téléphonique 1-800. Et si un joueur ne manque pas de match, alors ça c'est intéressant, si un joueur ne manque pas de match ou d'entraînement, c'est-à-dire qu'il a de l'aide, il peut très bien s'en prévaloir sans que son équipe ou son organisation ne le sache.
Ah bon?
Hein? Donc, ça se peut qu'il y a des joueurs qui, au fait, sont en train de régler des problèmes comme ça.
Oui, sans que l'équipe... Sans passer par l'équipe, oui.
Exact. Alors donc, c'est confidentiel, c'est ça le but, c'est que ça soit confidentiel pour inciter les athlètes à venir se confier s'ils ont un problème. Alors
ouais.
Voilà.
Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est, merci pour cette nouvelle d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on touche des millions par année que... Mais c'est l'argent, vraiment, vraiment, comme l'argent fait pas vraiment le bonheur.
Ouais, exact. Mais c'est des gens qui ont... Et surtout, est-ce qu'apparemment, j'ai entendu beaucoup d'analyses sur la vie d'un gardien de but. Hein.
Oui.
Un gardien de but, au fait, il a une très grosse pression, encore plus que les joueurs, apparemment.
Je peux m'imaginer, oui.
Les analyses.
Oui.
Ils disent que même il a besoin de 2-3 jours de préparation mentale pour un match. Tu comprends, là?
C'est beaucoup.
Alors,
il prépare, et
dépendamment de sa confiance en lui,
oui.
C'est surtout ça, c'est une question de confiance, de comment il se positionne même physiquement face à un filet, tu comprends?
Et mentalement, voilà.
Oui, alors quand il a confiance, il s'avance à l'avant, ce qui fait que ça intimide le joueur, l'adverse. Mmh. Et quand il recule, apparemment, j'ai appris ça aujourd'hui, quand il recule à l'intérieur, c'est un goleur qui n'a pas confiance en lui, qui est comme craintif. Et il rentre à l'intérieur. Alors bon, c'est intéressant de voir tout ça.
Il va falloir
Gens qui ont de la pression, donc évidemment, ils ont à un moment donné des problèmes comme ça.
Il va falloir te faire engager comme coach, toi. Hein.
Voyons, dans Fusion, je ne t'ai même pas patiné, je pense. Tu sais que j'ai déjà fait un match de hockey entre amis.
Ouais. C'était
plus que spectaculaire et cirque qu'autre chose. Mais bon, alors, on passe au soccer maintenant. Écoute, malheureusement, mauvaise nouvelle, c'est fini. Le CF de Montréal ne fera pas les séries. Après une saison nettement au-delà des attentes, il faut le dire quand même, le CF de Montréal a subi l'élimination dimanche dernier au Stade Saputo. Et je vous rappelais, jeudi dernier, je vous ai dit, c'est leur dernière chance dimanche. Il faut qu'ils gagnent. S'ils gagnent, ils passent. S'ils ne gagnent pas, ils ne passent pas.
Mais Myriam, avant de continuer, c'est quelle, sur le plan sportif, là, c'est quelle équipe qui va nous représenter vraiment de Montréal, là, je veux dire?
Oui. Je comprends pas ta question.
Quelle équipe là qui va nous mettre en valeur un peu en dehors le CF ça marche pas, le Canadien ça marche pas, c'est quelle équipe qui va nous mettre un peu en valeur maintenant?
Les Alouettes, ils ont perdu un peu un match la semaine dernière. Qu'est-ce que je dis? Peut-être que le basket va venir prendre la place de tout ça. On en a parlé qu'on a une nouvelle équipe pour le mois de mai prochain.
Hein? Oui, bon,
peut-être
ça. Parlons de celles qui sont déjà en place là, qui sont en train de nous décevoir de match en match.
On a un petit peu du mal en équipe qui représente Montréal, effectivement. Mais quand même, je viens à un point positif. Je finis cette chronique sur un point positif.
Oui.
C'est que si la saison MLS est terminée quand même, donc ils finissent au 10e rang.
Oui.
Le CF de Montréal va quand même participer à la finale du championnat canadien. Et devine contre qui? Bien sûr, ses rivaux, Toronto FC.
Pourquoi ils ont le droit d'y participer?
Mais parce qu'ils ont gagné leur demi-finale, tu te rappelles?
Ah bon, d'accord.
En même temps, ils jouaient le championnat canadien. Je vous avais parlé tout autant de l'automne. Ils sont allés à Halifax, ils ont gagné.
Oui.
Et en plus, ce sont les champions en titre en 2019. Ils ont gagné.
Ok, d'accord.
Canadien.
Voilà, je comprends mieux maintenant. Voilà.
Sinon, sous le nom de l'Impact à ce moment-là, ils ont gagné. Et il n'y a plus la pandémie. Donc, ça s'est passé l'année dernière, le championnat.
Oui.
Donc, cette année, ils sont les champions en titre qui viennent défendre leur titre contre Toronto FC.
Ouais, j'espère qu'ils vont aller de l'avant avec ça.
Sais que les deux voulaient jouer leur match chez eux à domicile. Alors, le règlement de Soccer Canada, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré ça au sort.
Oui.
Et Montréal a gagné. Ils vont jouer au Stade Saputo.
Ça va se passer ici chez nous, au Stade Saputo. Tant mieux pour eux. J'espère que ça va leur porter bonheur. Hein.
Peut-être. Ça va se jouer le 21 novembre à 13h, un dimanche. Ils disent que c'est la première fois qu'un match se joue si tard dans la saison froide comme ça. Donc peut-être qu'il y aura de la neige. Hein. Peut-être qu'on ne sait pas dans quelles conditions climatiques ça va jouer tout ça.
Ne le nous souhaitons pas pour l'instant.
Oui, 21 novembre quand même, des fois, il y a de la neige. Hein.
C'est bientôt. Là,
des fois, souvent.
On est allé quelques fois jusqu'à la veille de Noël avant de la neige à Montréal.
C'est vrai, mais on est déjà allé à un début novembre avec la neige.
Voilà, tout peut arriver. Alors, Charlotte, dit bravo, c'est bientôt le 21 novembre.
Oui, c'est bientôt le 21 novembre et ça s'appelle donc la Coupe des Voyageurs et cela leur permet, s'ils la gagnent, d'aller jouer en tournoi de la Ligue des Champions de la CONCACAF. Alors, il y a deux prix à gagner.
Si vous entendez les sportifs, les FC ou bien CF, allez, mettez bien, serrez bien les crampons et puis bon, gardez cette coupe-là, ce trophée-là.
Voilà,
et puis bon, il faut la garder, quoi. Il ne faut pas la laisser partir.
Exact.
Merci. Non, on a la fin.
On n'a pas fini encore. On a encore beaucoup de choses à dire. Alors,
on va
aller un peu plus vite.
Marathon
de New York.
Oui.
Tu sais que je vous avais parlé du marathon de New York il y a 3 semaines en vous disant qu'ils avaient empêché des visas pour les athlètes parce que la réouverture des frontières américaines était le 8 novembre, ce lundi,
oui.
Mais que le marathon était le 7 novembre. On a trouvé ça un peu ridicule. Ben, ça s'est continué pareil. Il n'y a eu que 30 000 participants qui ont eu le droit de venir. Donc, ils ont réduit leur effectif de 40%, car d'habitude, ils sont à peu près 50 000 participants.
Oui.
Et qui a gagné cette année? D'ailleurs, on a un doublé chez les hommes et chez les femmes. Ce sont des Kenyans qui ont gagné.
Bon, ça ne me surprend pas. Ouais. C'est des gens qui vivent en hauteur. Quand tu vis à côté du mont Kilimanjaro, c'est pas évident.
Exact. Alors, c'est le Kenyan Albert Courir qui a remporté le marathon de New York 2021.
Oui.
Et c'est sa première victoire dans une épreuve majeure comme ça. Il avait gagné son premier marathon, il avait gagné à Ottawa en 2019.
Oui.
Donc là, il a gagné la grande épreuve. Et chez les dames, c'est la Kenyane Peres Jepchirchir qui a devancé de loin ses adversaires à l'entrée de Central Park. Donc, et rappelons qu'elle a gagné quand même l'or aux Jeux Olympiques cet été à Tokyo.
Ah là, non, c'est donc, pas surprenant. Alors, on connaît déjà.
Voilà, elle a son,
elle a son, c'est une jeune fille, hein, elle a déjà son petit parcours à elle.
Oui, puis elle est jeune. Hein.
Ouais.
Alors, pour nos Canadiens, ben, c'est la meilleure qui est arrivée au classement. C'est Lani Marchand. Elle s'est classée au 11e rang, c'est pas mal. Elle est arrivée 11e quand même. Donc,
c'est pas mal.
C'est bien, voilà.
C'est quand même un marathon quand même mondial, international.
C'est l'un des plus vieux marathons du monde.
Voilà.
Alors, maintenant, je vais vous rappeler rapidement qu'en ce moment, ça y est, les grandes finales de la WTA au tennis ont commencé hier à Guadalajara au Mexique. Les 8 meilleurs du monde s'affrontent du 10 au 17 novembre. Alors, je vais vous donner rapidement. Tu m'avais posé la question la semaine dernière. Est-ce qu'elle s'est prononcée Osaka? Mais Osaka a tellement glissé au 13e rang qu'elle n'a même pas voix au chapitre pour sa participation.
Ah bon, d'accord. Ok. Question.
Il y a Ashleigh Barty qui s'est retirée, forfait la numéro 1 mondiale. Elle dit qu'elle préfère se reposer, se préparer pour le Grand Chelem qui commence en janvier.
Oui.
Et la numéro 7 mondiale s'est retirée aussi. Hans Jaber, la Tunisienne. Ça, c'est surprenant qu'elle ne soit pas venue au final parce que c'est prestigieux hein, de venir être parmi les 8 meilleurs au monde. Alors, on a Arina Sabalenka qui est là, Barbora Krajicová, la Tchèque, Karolina Pliskova, la Tchèque, Maria Sakkari, la Grecque, Iga Świątek, la Polonaise, Garbiñe Muguruza, l'Espagnol, et l'Espagnol aussi, Paula Badosa, pour finir avec l'Estonienne, Annette Kontaveit. Alors, ces deux dernières ont eu la chance parce que les deux se sont désistées, donc elles sont remontées parmi les 8.
Donc, c'est Europe de l'Est contre l'Espagne, quoi.
Oui, contre les Tchèques.
Si on voit le nombre
de... Espagnols.
Ouais. Voilà, deux.
Voilà, alors, si vous voulez regarder ça, c'est sur les télévisions jusqu'au 17 novembre.
OK.
Maintenant, je finis avec la petite histoire, comme toujours.
Oui.
Qui est une belle petite histoire, je vais vous le dire. Elles l'ont fait. C'est Anne-Lise Nadeau et Duja Mekamsha ont complété le tour de l'île de Montréal à la course les 5 et 6 novembre dernier, donc le week-end qui vient de passer.
Oui.
Et sur la ligne d'arrivée, on a vu de la fierté, de la joie et de la fatigue avec des larmes qui baignaient leur visage. Vendredi soir, c'est trois femmes au départ, Duja Kemsha, Anne-Lise Nadeau, Isabelle Desjardins, commençaient le marathon de leur vie, faire le tour de l'île de Montréal. Ça n'a jamais été fait, selon leurs informations, par des femmes.
Oui.
Eh ben, malgré la perte d'une du trio, donc Isabelle Desjardins qui a été blessée en chemin dans une jambe a dû quitter au 90e kilomètre.
Oui.
Les deux autres femmes ont persévéré pour se dépasser pour le plus gros défi sportif de leur vie. Leur conjoint courait à côté d'eux. Il leur faisait passer des messages de leurs enfants. C'est très émotif. Leurs enfants qui criaient, hein, maman, tu vas y arriver. Alors, Anne-Lise Nadeau et Duja Kemsha seraient apparemment les pionnières dans cette course-là, de ce Tour de l'île. Dans des conditions presque hivernales, hein. Il faisait très froid ce week-end, je ne sais pas si tu te rappelles.
Oui.
Elles ont couru pendant 21 heures, elles ont commencé ça vendredi soir pour finir samedi.
Et tu sais, Myriam, quand il fait très froid, je ne mets pas le nez dehors. Hein.
Voilà, elles ont décidé de courir. Alors les deux ultra-marathoniennes qu'on appelle ont gardé le cap jusqu'à la fin,
oui.
Grâce donc aux encouragements de leurs proches, pour accomplir et achever ce projet de vie. Bravo mesdames. Et à travers ça, elles ont quand même amassé 4 100 $ au profit de la sclérose en plaques.
On l'a dit, bravo.
Bravo.
Voilà. Merci.
Je finis sur cette belle note positive,
oui,
et encourageante, Fulgence, et je vous dis à la semaine prochaine.
Allez, bonne soirée à toi et à la semaine prochaine. Merci Myriam.
Au revoir.
You're contemplating on back at all. Hey, yeah. So free up yourself and just head phone. Girl, come off your phone. Make that bam bam go na na. What you waiting for? People coming down from all over. Just a jump to soca. Come a little closer, and I love you too.
jamming on. I'll be there, I'll be there, yeah. Baby, give me all your love, and I'll be yours eternally.
Love it, ouais, so capure. Voilà, j'ai quelques minutes là pour passer ce message. En Allemagne, ça va pas du tout bien, ça va pas du tout bien. Aujourd'hui, 50 000 nouvelles contaminations Covid-19. Pour la journée d'aujourd'hui seulement, 50 000. C'est beaucoup, comme si on était en début. Alors là, c'est grave, la situation est grave. Je ne sais pas comment ils vont, le futur chancelier qui vient d'être élu d'ailleurs, il n'est même pas encore au pouvoir, c'est la grande dame Angela Merkel qui est encore là. Ils devront mettre notre pays à l'abri de l'hiver. Voilà, c'est pas facile. La coalition de qui n'est même pas encore, le gouvernement qui n'est même pas encore formé. Bon, aujourd'hui seulement 50 000 contaminations. Voilà, voilà. Il y a un mois, il y avait un taux d'incidence désormais de 150 contre 60. Il y a un mois, c'est comment? Et la chancelière allemande Angela, qui qualifiait la situation de dramatique, elle plaide pour un nouveau sommet entre l'État et les régions. Mais la nouvelle coalition n'était pas enthousiaste finalement. Il aura lieu dans une semaine, d'ailleurs, et dans 50 000 nouvelles contaminations, juste la journée d'aujourd'hui. Allez-y comprendre quelque chose, hein, ouais, c'est vraiment... Alors, oui, avant de... Quand je vais recevoir mon invité en deuxième partie d'émission, vous allez entendre cette histoire de 11 novembre, 11h, 11e jour, 11e mois, c'est tellement intéressant. Vous savez, c'est la cérémonie du jour de souvenir, hein, c'est... Vous voyez, Coquelico, depuis un moment, les gens, moi, j'ai perdu le mien d'ailleurs, et je l'avais acheté, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme mouvement, et puis j'ai fait tomber quelque part. Voilà, donc, aujourd'hui, déjà 11h, 11e jour, 11e mois, il y a eu des cérémonies un peu partout. Et il y avait de la foule, mais pas comme avant la pandémie. Avant la pandémie, il y avait beaucoup plus de gens. Le public était beaucoup plus grand d'ailleurs. Donc, c'est dans ce cadre, je vais parler aussi, on va parler aussi à un discours, une partie du discours du traité de Versailles qui va passer après la petite pause publicitaire. Et puis il y aura une pièce, une chanson de Verdun. Il a été l'un des grands combats de cette guerre, 14-18, pas 39-45, 14-18. Et puis bon, ben, c'est quoi cette date? Je vais parler, c'est sa date de la signature de l'amnistie qui a eu lieu le 11 novembre 1918. Voilà, on termine comme ça en musique avec une jeune dame, Jax, 19 Kids.
Do it for the 90s. It's our generation. We need conversation in a nation with no communication. A little easy baiting. We're kinda lost, yeah, but we're on a break, man. Rachel and Ross say we're going down with the ship, Leonardo. Put on your box and your docks and we'll kick it at the bar. No cash, but we turn it up to 10, though. Fam, I'm just trying to get Super Smash Nintendo. So la-di-do, bro, we're hella messed up. The 90s. Chilling on the rooftop, s'mores and brat stalls. Wait some more, what? You're killing me, Smalls.
You're killing me, Smalls.
We're going down with the ship, Leonardo. Put on your box and your docks, and we'll kick it at the bar. No cash, but we turn it up to 10.
fam, I'm just trying to get super smashed Nintendo. So la-di-da, we're hella messed up. Do you got a Tamagotchi? Like a real Tamagotchi? Cause you know I Tamagot you. If you Tamagot me.
Oh no, it died.
So la di do po, we're hella messed up.
Jax, 90's Kids, voilà. On termine l'émission comme ça. La première partie, bien sûr. En deuxième partie, on va recevoir Martin Forbes, qui est journaliste indépendant. Il a été dans les forces armées canadiennes pendant 11 ans, auteur de documentaires, et il va nous parler un peu de son expérience personnelle et pédagogie. On l'a invité parce que c'est le jour du souvenir. C'est un vétéran, c'est pas un ancien combattant, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite après la petite pause publicitaire.
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Juin 1919, cour du château de Versailles. 5 ans jour pour jour après le fameux attentat de Sarajevo qui a déclenché la Première Guerre mondiale, on va enfin signer le traité de paix. La foule s'est réunie en masse pour apercevoir les représentants des États qui ont participé aux négociations. Le président américain Thomas Woodrow Wilson, le premier ministre anglais David Lloyd George et le français Georges Clemenceau, qu'un peuple entier pousse à la revanche. Le choix du château de Versailles n'est pas anodin. Dans la Galerie des Glaces a été proclamée la création du premier Reich, 38 ans plus tôt. Pendant les 7 mois qui ont précédé la signature du traité, de décembre 1918 à juin 1919, s'est tenue la conférence de Paris. 7 mois de négociations, 1646 séances tenues par 52 commissions techniques qui entérinent la disparition de 3 empires, l'allemand, l'austro-hongrois et l'empire ottoman.
Il va donc de soi que la jonction Miskovec-Kaskao avec la ligne Saint-Péter-Lonzon devra passer par ici et est attribué à la Tchécoslovaquie.
Vous voulez la paix? Nous sommes disposés à vous l'accorder. Voici le livre contenant nos dispositions.
Clemenceau veut faire payer aux Allemands les destructions et les millions de morts. Et il réussit à convaincre le président américain de laisser la France occuper l'Allemagne.
You must understand that occupying Germany, at least for 15 years, will force them to accept the treaty. Mm-hmm. I need those 15 years.
You have them.
C'est un grand moment qui se joue à Versailles ce 28 juin. Tout a été pensé pour impressionner les Allemands.
Clemenceau avait souhaité qu'une délégation de gueules cassées, donc de grands blessés de guerre, soit présente dans la galerie et soit visible des plénipotentiaires allemands lorsqu'ils sont entrés dans la galerie pour leur rappeler l'un des aspects terribles de cette guerre, indépendamment des destructions des villes.
Comme ce n'est pas une paix négociée, mais vraiment dictée, les Allemands qui sont obligés de signer ou qui se sentent obligé de signer le signe d'un très mauvais cœur.
L'Allemagne est amputée de 15% de son territoire et de 10% de sa population au profit de la France, de la Belgique, du Danemark et surtout de la Pologne recréée.
Le grand problème du traité de Versailles n'a pas été ce devoir de payer, mais il ne voulait nullement accepter d'être les seuls coupables de cette guerre qui avait créé tant de morts en France, tout comme en Allemagne et ailleurs.
Bien plus que le traité de Versailles, c'est la crise économique de 1929 qui provoquera la montée du nazisme en Allemagne. Mais Hitler se servira du sentiment d'humiliation vécu à Versailles pour monter les foules contre les anciens ennemis et justifier la reconquête des territoires perdus. Enfin, la création de la Yougoslavie en 1919 et le morcellement de l'Empire turc ouvriront la porte à bien des frustrations. Elles conduiront à la guerre des Balkans et aux différents conflits qui déchirent le Proche-Orient depuis près d'un siècle.
Versailles, la guerre gagnée, la paix perdue de Luc Ruder et d'Éric Elena. Voilà, notre invité déjà au bout du fil, Martin Forge. Forge, c'est bien ça, je veux pas de me c'est pas Forge, c'est Forge. Bonjour Martin Forge, comment allez-vous?
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va.
Oui, quand vous entendez ces paroles, vous avez pas entendu tout le discours, mais ce traité de Versailles, vous, en tant qu'ancien des forces armées canadiennes, qu'est-ce que ça vous dit?
C'est sûr, bon, ça marque la fin. C'est un traité qui marquait la fin de probablement la. En tout cas, c'est au moins une des pires guerres de l'histoire de l'humanité. Du moins, c'est la pire guerre de l'histoire récente, là, celle du 20e siècle. En tout cas, ça, c'est sûr.
Oui.
C'est là qu'a commencé cette tradition de jour du souvenir. Mais en même temps, depuis quelques années, moi, je réexamine un peu l'histoire de la Première Guerre mondiale, ses causes, ses ramifications plus profondes. Là, puis je la vois aujourd'hui d'un œil beaucoup plus critique qu'avant. Et je pense que c'est aujourd'hui, bon, avec tout ce qu'on en sait, on sait aujourd'hui que c'est pas une guerre qui était nécessairement, en tout cas pour nous ici, au Canada, à plus forte raison pour les Canadiens français, c'était pas une guerre qui représentait vraiment nos intérêts. Donc,
non.
Je trouve qu'on devrait intégrer un peu plus cette dimension-là dans le discours, parce que moi, comme ancien combattant,
oui.
Une des manières que j'ai choisi d'honorer le sacrifice de mes frères, mes sœurs d'armes, c'est d'avoir un regard très critique sur les missions, sur les guerres, tout, où ils sont envoyés,
oui.
À savoir si c'est vraiment dans l'intérêt des citoyens.
Oui. Et puis une guerre qui est partie de rien du tout, rien du tout. Bon, quand moi je lis un peu, parce que ça a été le 28 juin 1914, il y a eu l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, c'est de là qu'est partie cette histoire.
Oui.
Oh, ouais, c'était le prince héritier de l'Empire austro-hongrois, François Ferdinand d'Autriche.
C'est oui, c'était l'excuse pour déclencher un conflit, mais on sait qu'il y avait des tensions déjà.
C'est ça.
On voit la Première Guerre mondiale, moi je vois un peu ça comme si c'est un peu l'effort ultime là, au début du 20e siècle pour sauver les vieux empires
oui.
Qui se sont finalement écroulés
oui.
quatre ans plus tard.
Là. Oui, oui. Oui. Et cette journée-là, parce que le 11 novembre, là, au fait, la signature du traité de Versailles est venue plus tard. Ça, le 11 novembre, c'était la signature de l'armistice.
Oui, donc, c'est ça.
Voilà. C'était le 11 novembre à 5h15 du matin dans un wagon stationné dans la forêt de la campagne annoise, la France. Et puis c'était à 11h, après validé après à 11h. Et puis, c'est donc cette histoire de 11e mois, 11e jour, 11e heure.
Oui, ben voilà.
Voilà.
Oui, l'histoire, souvent, n'est pas sans ironie, hein, parmi ceux qui étaient présents dans ce wagon-là, il y avait le maréchal Philippe Pétain, qui... Bon, par après, disons, de grands héros militaires populaires français a sombré un peu dans la disgrâce quelques années plus tard, quand
oui.
la Deuxième Guerre mondiale
oui.
s'est déclarée.
Oui, oui. Moi, je l'appelle le fameux Pétain.
Oui, oui, oui. Ben oui, le fameux Pétain.
Oui, 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 le fameux Pétain, celui-là, bon, ben, je ne sais pas.
Oui, vous savez, il y a des tentatives présentement d'essayer de réhabiliter sa mémoire en France, là, parmi des mouvances politiques d'extrême droite qui essaient maintenant d'en faire l'espèce de vrai héros patriote de la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, c'est encore marginal, on espère que ça va le rester.
On espère que ça va le rester. Bon, Martin, vous, en tant qu'ancien combattant, qu'est-ce que cette date du 11 novembre vous dit? Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Ben, c'est une date. Ben, en fait, c'est une date. Parce que, bon, comme on disait, c'est une journée de commémoration. Bon, on a commencé par commémorer la fin de la Première Guerre mondiale, mais qui était censée être la dernière des dernières. Mais bon, finalement, je pense que le 20e siècle nous aura démontré que c'était pas du tout le cas.
Oui.
Et ni le 21e, ni le premier quart du 21e non plus. Mais pour moi, c'est ça. J'ai servi 11 ans, presque 12 dans l'armée. J'ai servi en Bosnie, j'ai servi en Afghanistan. En Afghanistan, j'ai perdu des amis proches qui sont pas revenus ou encore qui ont été blessés ou qui aujourd'hui souffrent de stress post-traumatique, en tout cas de toutes sortes de séquelles, Bon, qui ont rapport à la guerre. J'ai un ami très proche avec qui j'étais en Afghanistan et en Bosnie.
Martin, je prends la balle au bon. Comment Martin se sent aujourd'hui?
Comme tous les 11 novembre, il sent un peu... il y a une petite mélancolie qui s'installe, je vous dirais. Parce que je pense que c'est important de prendre la journée pour repenser justement au sacrifice des soldats, mais aussi au sacrifice de toutes les victimes civiles, aussi au caractère atroce de ce qu'est la guerre en général. Mais c'est sûr que la commémoration de ceux avec qui j'ai servi prend beaucoup de place là depuis quelques années. Mmh. Étant donné que bon, j'en ai perdu soit là-bas en Afghanistan ou il y a 7 ans, j'ai un de mes bons amis avec qui j'étais en Bosnie et en Afghanistan qui s'est suicidé. Conséquence de ces démons qu'il n'a pas réussi à exorciser là depuis le retour de guerre.
Quand vous revenez là, quand vous revenez de vos lieux de résidence ou bien de combat, je ne sais quoi, on peut l'appeler comme on veut, quelles sont les dispositions qui sont mises en place pour vous accueillir, pour vous mettre pour vos points de traitement ou bien points de suivi? Est-ce que ça existe, en fait?
Oui, ben il y a
quand vous arrivez.
Il y a une espèce de suivi qui se fait, c'est sûr. Puis tant que... En fait, c'est un peu ça le problème. C'est parce que tant que les militaires restent dans le système, tant qu'ils restent dans l'armée, généralement le suivi est assez serré parce que bon, les forces armées étant une espèce de micro-société, bon, ils ont leur propre service de santé, notamment, et puis ils ont accès à toutes sortes de choses. Le problème vient quand on quitte le service et là, on dépend du département des anciens combattants.
Oui.
Et là, ça peut devenir ça peut devenir une espèce de... Bon, ça peut être un peu le chaos...
Ils n'ont pas leur propre service médical là-bas, leur propre infirmerie.
Vous parlez d'où?
De service des anciens combattants.
Oui, non, c'est ça. En fait, il y a des services, mais il faut y avoir accès.
Oui.
Et quand on a quitté l'armée, ben là, il y a tout un dédale bureaucratique à affronter, ce qui fait que souvent ça peut prendre des années avant d'obtenir des services, et malheureusement, en cours de route, on perd des membres là, qui finissent par soit abandonner. Il y en a qui, comme je disais, il y a eu beaucoup de suicides là, dans les dernières années. Mais c'est ça, il y a des choses à améliorer, disons, de ce côté-là.
OK. On fait une petite pause, j'appelle pas ça musical, on va écouter un peu la chanson de Verdun, la Verdun, on ne passera pas. On n'y passe pas, 14-18, on est là-dedans, c'est la journée.
Oh oui.
Oui. Pas 14-18, 1914-1918, c'était l'une des batailles les plus féroces, même durant cette guerre-là d'ailleurs. Et puis, Martin ?
Oui.
Oui, vous, personnellement, est-ce que, actuellement, quand vous rencontrez la jeune génération, s'il y a des jeunes gens qui vous demandent votre expérience personnelle dans l'armée, 11 ans, presque 12 ans, comme vous l'avez dit, quel conseil, s'ils veulent s'embarquer, s'engager dans l'armée, quel est le conseil que vous leur donnez ?
Malgré tout ce qui m'est arrivé par après, j'ai moi-même été diagnostiqué post-traumatique, tout ça, mais il y a une chose que je vais toujours donner à mon service militaire, c'est qu'il a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui.
Oui.
Parce que.
J'allais y venir d'ailleurs, de toutes les façons. Est-ce que c'est l'armée qui.
Je vais en laisser un petit peu pour plus tard. Mais donc, si je rencontrais quelqu'un, un jeune qui veut, ou une jeune, qui veut s'enrôler,
oui.
Je dirais que. un des meilleurs conseils que je pourrais donner, je pense, ce serait d'avoir l'esprit ouvert.
Oui.
Parce que, puis d'abord et avant tout, parce que, bon, c'est une formation qui est quand même, je dirais, extrêmement difficile pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça.
Oui.
L'esprit ouvert dans le sens où il faut, ben c'est ça, il faut s'accrocher pour passer au travers de cette formation-là. Et aussi,
il faut avoir le mental aussi, hein.
Oui, puis il faut s'ouvrir au fait que, comme on n'accomplit rien tout seul dans la vie, et aujourd'hui, bon, on décrit souvent la plus jeune génération comme un peu plus individualiste, mais c'est de dire, OK, tu vas apprendre là-bas l'importance de travailler
en équipe. En équipe, oui.
Oui, voilà, ça je pense que c'est c'est probablement la plus belle valeur que un service militaire peut inculquer. Là, puis surtout aujourd'hui, comme je disais, là, à une époque où on est beaucoup plus individualiste.
Oui.
Oui. Mais si je pouvais ouvrir une parenthèse, on parle souvent des jeunes, mais justement, surtout la génération des milléniaux, la génération Y, on la décrit souvent justement comme individualiste, mais
oui.
Moi, j'aime souligner que c'est quand même la génération récemment qui a contribué à plus forte raison aux différentes guerres, que ce soit en Afghanistan pour nous, dans le cas des Américains, en Irak aussi, parce que les militaires qui se déployaient dans les 20 dernières années, c'était des membres de la génération Y. Et ça, on l'oublie trop souvent.
Oui. Mais là, on revient à vous personnellement. Qu'est-ce que l'armée vous a apporté?
Comme vous commencez à dire, ça fait de moi la personne parce que j'étais quelqu'un d'assez introverti, d'assez renfermé, réservé, timide quand j'étais adolescent. J'avais pas très confiance en mon potentiel, en mes capacités. Puis l'armée a permis de tout débloquer ça. Parce que dans l'armée, c'est-à-dire qu'on est dans la vie, on est souvent confronté à nos limites. Mais dans l'armée, on t'incite et on t'oblige d'une certaine manière à aller dépasser ces limites-là.
Oui.
Donc, tu n'acceptes pas l'état, la limite dans laquelle tu es, et on te donne les outils pour te dépasser, à commencer par justement le travailler, apprendre les vertus du travail en équipe. Donc, à partir de ce moment-là, bon, j'ai quand même, j'ai une carrière où je suis allé en mission deux fois. J'ai monté en grade assez rapidement quand même. J'ai terminé avec le grade de sergent. J'ai terminé mon service avec le grade de sergent. Donc j'ai appris le leadership, l'importance de ne pas regarder ses limites comme étant une finalité. Donc au final, je pense que ça m'a apporté quand même. Ça m'a apporté beaucoup plus que ça m'en a enlevé. Puis pour ça, ben je.
Tant mieux alors.
J'ai pas de regrets parce que je dis toujours, ce que ça m'a retiré, malgré tout ce que ça m'a amené comme problème de santé, ben je dis, je le referai demain matin.
Bravo.
Je le referai demain matin.
Bravo. Ouais. Pour la dernière minute, il nous reste une question rapide et puis la question qui peut rebondir. Le Canada, il y a une campagne coquelique aujourd'hui, actuellement, là, qui se fait contre la déclaration. Le Canada doit dire non aux armes nucléaires.
Oui.
Quelle est votre position là-dessus, rapidement, en quelques secondes?
Moi, comme coparrain de la campagne du coquelicot blanc, comme aujourd'hui journaliste qui se définit beaucoup comme antimilitariste, j'endosse complètement cette déclaration-là parce que on est présentement en train de revenir dans un climat de guerre froide qu'on pensait terminer depuis le début des années 90, mais on y revient. Il y a une nouvelle course aux armes qui recommence entre les États-Unis, la Chine, la Russie, les grandes puissances.
Mm-hmm.
Puis le Canada, si jamais il est tenté d'embarquer dans cette danse-là, il faut qu'on envoie le message de ne pas le faire.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. Et Martin, je vais vous réinviter pour venir parler de votre carrière en tant que journaliste indépendant, documentariste, les documentaires, les livres que vous écrivez, tout ça. Aujourd'hui, on a parlé de soldats, de guerre, tout ça. Hein?
Oui.
La prochaine fois.
Quand vous voulez.
Ok, d'accord. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Et au plaisir de vous. Je vais vous réinviter, je vous le promets. On va parler de vos écrits, de vos documentaires, tout ça. Merci beaucoup, Martin.
Au revoir.
Long Way Home, c'est du jazz, ça, c'est du pur. Nouvelle découverte. Alors, merci beaucoup à toi, Maurice Bolduc. Oui, merci à notre invité qui est venu nous parler. Martin Fogg, c'est bien ça, oui, oui. 12 ans dans l'armée, presque 12 ans dans l'armée canadienne. Et merci à nous. Merci à Myriam Larache qui est venue nous apprendre aussi à donner des nouvelles sportives, toujours des nouveautés. Merci à toi, à nos auditeurs de leur fidélité. Et puis, on se retrouve demain. À la même heure sur les ondes du Canal M. Et je vous dis ciao.